Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nour, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bonjour et bienvenue sur Projet Libre, nous sommes le 5 juillet et aujourd'hui nous allons parler de métier de juriste spécialisé en logiciel libre. Quand je pense au terme de juriste spécialisé en logiciel libre, je pense tout de suite aux licences, mais aussi à certains procès médiatiques qu'on a pu avoir ou d'autres procès à propos de violations de licences. Mais pourtant, ce n'est qu'une petite partie de ce que les juristes font. Et pour parler de ce métier, j'ai invité Benjamin Jean, qui est un acteur français engagé depuis très longtemps dans le logiciel libre et fondateur du cabinet InnoCube. Benjamin va nous présenter les différentes actions qu'il mène au quotidien. Benjamin, merci beaucoup d'être là. J'espère que tu vas bien.
Bonjour. Très bien, merci beaucoup et ravi d'être avec toi.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours et quand est-ce que tu as découvert le logiciel libre ?
Me présenter rapidement, donc Benjamin Jean, je suis juriste de formation spécialisé en propriété intellectuelle. Dans la propriété intellectuelle, avec deux thématiques qui étaient à la fois tout ce qui était musique, jazz, en tout cas tout ce qui était improvisation et travail collectif dans la musique et aussi tout ce qui était lié au développement logiciel, pour en avoir fait moi-même un peu auparavant. Et donc, dès la fin de mes études, j'ai été plus dans des sociétés de développement logiciel libre, pour tout dire, sachant que j'avais fait à l'époque mon mémoire sur le sujet de la compatibilité des licences open source, donc déjà assez en immersion. Voilà pour ce qui me concerne. Et donc aujourd'hui, je suis le fondateur du cabinet InnoCube, qui est une structure un peu hybride, c'est-à-dire qu'on est 10 aujourd'hui. Dans le cabinet, il y a 3 juristes seulement, dont un thésard, un doctorant. Et pour le reste, c'est des compétences qui sont soit ingénieur logiciel, soit designer, soit plus orientés sociaux, usage. Et on accompagne surtout sur à la fois la culturation, la compréhension de ce que les licences peuvent avoir, en tout cas de la dimension juridique dans laquelle s'embarquent les acteurs qui utilisent ou qui diffusent les logiciels libres open source. Aussi toute la dimension communautaire, comment organiser la collaboration au sein d'une diversité, donc d'une communauté diversifiée, des acteurs publics, privés, à l'international.
Donc tu nous dis que tu as un parcours un peu technique. À quel moment dans ton parcours tu as croisé le logiciel libre ?
À partir du moment où on développe, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, c'était quand 2001, je pense, mon projet BAC, c'était développer un moteur de recherche. Et j'utilisais massivement l'open source. En fait, c'était la base. Donc, de toute façon, pour développer, il fallait utiliser le logiciel libre open source. À l'époque, j'avais pas la culture juridique que j'ai acquise ensuite, qui m'a permis de me spécialiser sur, non pas sur le développement, je développe plus du tout, mais sur la dimension juridique qui lui associée, et au-delà du juridique, tous les outils qui permettent cet interfaçage entre plein d'acteurs partout dans le monde.
Toi qui es juriste, comment tu définis une licence ?
Alors, il y a plusieurs manières d'y répondre, mais pour moi, une licence libre, licence open source, alors la notion même de licence, c'est pas quelque chose qui est défini par la loi pour la partie droit d'auteur. C'est plus une vision, c'est la terminologie qui est utilisée aux US. La licence, c'est une offre de contracter, dans le sens où l'auteur d'un logiciel ou les auteurs associent à leur logiciel une offre, en disant, si jamais vous voulez l'utiliser, alors vous devez respecter les conditions qui sont associées. Et donc c'est une offre de contracter par laquelle l'auteur donne, donc il partage de manière non exclusive, c'est-à-dire qu'il partage ses droits, mais il les garde aussi pour lui, mais il s'en dépossède pas, l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle associés aux contributions qu'il a pu réaliser pour le monde entier et pour toute la durée des droits, et de manière gratuite. C'est un point qui est aussi important. Et donc celui qui veut utiliser le logiciel, accède au logiciel, lit le contrat, l'accepte, et à partir de là, il peut bénéficier des droits qui sont dans la licence, dès lors qu'ils respectent les conditions assorties au bénéfice de ces droits. C'est là parfois qu'il y a des mauvais usages. Si on respecte pas les conditions, alors la licence cesse et on devient contrefacteur. Très récemment, il y a eu un procès perdu par Orange sur le sujet. Peu importe qui l'a perdu, en fait, mais en tout cas, il y a eu un procès qui a rappelé que le simple fait de ne pas respecter la licence finalement ne permet pas de prétendre au bénéfice des autres parties de licence, et donc on retombe sur la contrefaçon.
Donc au départ, tu as commencé par développer, ensuite tu as fait des études de droit. Comment tu as fait pour t'intégrer dans ce travail législatif autour des licences ?
Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est des rencontres, c'est des personnes avec qui j'ai été amené à monter des projets. L'implication au début était surtout dans les communautés, au titre de Framasoft, et j'en fais encore partie, même si je suis de loin et de loin le plus actif de l'association. Mais donc on avait créé un sous-projet qui était aussi une association qui s'appelait Venivi Libri, qui faisait ce travail de répondre aux demandes finalement des différents projets qui avaient qui butaient sur la question des licences, sur la question des contrats des CLA, en tout cas des contrats de contribution, en tout cas tout ce qui était un peu trop juridique pour eux et qui nous semblait facile à d'une part à résoudre et ensuite à documenter pour permettre à d'autres de trouver leur réponse. Donc c'est l'objet de Venivi Libri. Et ce qui m'a intéressé et qui répond aussi une partie à ce que tu évoquais tout à l'heure quant au processus de création de licence, standardisation, c'est justement, bon, il y avait très peu d'acteurs hein, qui travaillaient sur ce sujet. Quand j'ai commencé à m'intéresser à analyser les licences libres open source, ce qui était compliqué, c'est qu'en fait, il y avait très peu de littérature et donc globalement, c'était lire 2-3 licences par soir, en tirer une analyse et d'analyse en analyse, essayer d'en sortir une matrice et une grille de lecture. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont beaucoup plus partagées. Et d'ailleurs, c'est très facile d'une licence de retrouver la structure qu'on peut ensuite comparer à une autre licence. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, peu de personnes encore impliquées et une communauté qui était assez réduite, mais qui s'entraidait beaucoup, qui cherchait à partager les solutions juridiques qui étaient trouvées par les unes ou les autres. Et il y avait aussi une compréhension du métier du droit. Alors, je sais pas si c'est bien formulé, mais beaucoup de licences libres open source ont été rédigées par des non-juristes, des personnes qui n'étaient pas du tout du métier du droit. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que ça correspondait à leurs besoins. Mais en revanche, de la même manière que lorsqu'un juriste développe un logiciel, quelques imperfections quant à la manière de faire. Et ensuite, il y a eu cette rencontre entre juristes et développeurs, en tout cas hackers, communauté logiciel libre, dans lesquels les juristes ont commencé à être plus impliqués et apporter des rédactions de contrats qui étaient à la fois plus traditionnelles au sens des usages qu'il y avait dans le milieu juridique, mais aussi peut-être plus pertinentes, plus adaptées aux besoins des projets d'un point de vue juridique. Et le travail de rédaction de la licence, bon, c'est quelque chose qui arrive pas tous les jours non plus, hein, donc c'est qu'une partie du rôle du jury, je pense, dans la communauté libre open source. Mais ce travail-là, il se fait de plus en plus maintenant en concertation entre juristes, entre communautés concernées, et ça participe aussi à l'engagement des acteurs. C'est-à-dire qu'une licence, si elle n'est pas utilisée, ça ne sert pas grand-chose. Il y a plein de licences qui aujourd'hui ne sont plus utilisées et finalement sont un peu reléguées au second plan. Parfois, on voit des projets qui les réutilisent et quand c'est le cas, on le regrette un peu parce qu'en fait, on sait que derrière, il n'y a pas vraiment de doctrine au sens de possibilité d'interpréter les imprécisions de la licence. Il n'y a pas de suivi, même si jamais on veut contacter les auteurs de la licence, parce qu'ils sont pas disponibles et ils n'ont pas de moyens dédiés. Et il y a quand même un rôle de vision, donc il y a un projecteur qui est mis sur quelques licences seulement. C'est aussi ce que fait de plus en plus l'Open Source Initiative, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre la prolifération de licences et d'aider les développeurs et les communautés à choisir les licences qui répondent le mieux à leur projet.
Est-ce que c'est ce que vous appelez la standardisation? J'ai découvert qu'en fait, au début du logiciel libre, il y avait quelques licences, mais rien de bien normalisé et qu'il y a eu un moment, un besoin de standardiser les licences pour pouvoir passer à l'échelle et avoir des choses qui étaient plus compréhensibles.
Ça s'est fait, mais pas par les juristes. Hein. Mais ce qui est intéressant, parce que sans le droit, c'est que c'est beaucoup de bon sens. Et à l'époque, au tout début des licences libres open source, c'était que des licences projet par projet. On avait la GNU Emacs Public License, la GNU GCC Public License et j'en passe. Et un jour, ils se sont dit, tiens, si on veut que d'autres projets puissent réutiliser la licence et qu'on puisse plus facilement partager du code d'un projet à l'autre, il faut qu'on ait une licence générique. Et la General Public License, ça vient de là, la GPL. C'est de cette idée de, je sors d'un projet spécifique pour en faire une licence qui peut être utilisée sur d'autres projets. Les premiers projets qui l'ont utilisé, c'est Linux, c'est Perl. Donc ça donne aussi ça a montré aussi cet intérêt pour d'autres projets que ceux de la fondation Free Software Foundation à l'époque, d'avoir des outils génériques susceptibles d'être utilisés, parce qu'il est un peu agnostique, en tout cas à l'époque c'était considéré comme tel. Et pour moi, le succès des licences libres open source, justement, c'est d'être devenu des standards. Les licences, ce sont des interfaces, alors juridiques, hein, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais je sais pas si j'utilisais le terme interface, mais Les licences, c'est vraiment ce qui permet à des humains ou des organisations de travailler les uns les unes avec les autres. Et donc, pour que ça marche, il faut qu'elles soient standardisées. C'est comme du code. Et le succès des licences libres open source, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que où qu'on soit dans le monde, la MIT, c'est la comme telle version de la MIT, on va utiliser une licence qui est peut-être moins au milieu, mais la licence Apache 2.0, c'est la même. On y associe des effets qui sont quasiment les mêmes. Et c'est pour ça qu'on peut travailler ensemble.
Donc, des licences, il y en a vraiment beaucoup. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des licences plutôt à l'échelle française ou à l'échelle européenne? Parce que là, on parle de MIT, on parle de licences Apache, qui sont des licences qui ont été rédigées plutôt par des Américains.
Oui, oui, complètement. La majorité des licences sont américaines, de toute façon. Bon, ça peut s'expliquer, je pourrais passer du temps sur l'explication, mais bon, peu importe, la majorité des licences sont américaines. La question du besoin sous-jacent à la rédaction d'une nouvelle licence, c'est pour moi, c'est crucial, mais c'est pas si automatique que ça. Et notamment, alors ça fait partie peut-être des biais des juristes, mais les juristes ont souvent tendance à dire, lorsqu'on leur demande de rédiger un contrat, ou de modifier ou d'amender un contrat, de repartir à partir de zéro, parce que bah, simplement on contrôle mieux, ça répond à nos pratiques, nos usages, et donc on est en confiance. Je pense qu'il y a quand même pas mal de licences libres open source qui au début ont été rédigées parce que ça sécurisait. Et puis c'était même certainement pour aussi l'une des raisons pour lesquelles l'open source au début a eu tant d'engouement de la part des sociétés, c'est qu'il y a plein de sociétés qui se sont dit « génial, je vais créer ma propre licence ». À l'époque, juste après la création de l'open source initiative, donc les années 2000, on a eu cette définition de l'open source définition, et donc il y a plein de nouvelles licences, notamment la Mozilla Public License, il y a plein de nouvelles licences qui ont pris les modèles de licences existantes et qui les ont un peu modifiées. Et on s'est retrouvé avec une prolifération en 5-6 ans, il y a eu des centaines de nouvelles licences. Après, heureusement, on est revenu en arrière, on a limité le nombre de licences, mais je pense qu'à l'époque, c'était une bonne chose pour que des sociétés qui n'étaient pas du tout empreintes du livre se sentent en confiance en se disant « on l'a adapté, voilà, on avait ce besoin, on l'a fait ». La question des licences françaises, en langue française, les licences Cécile, pour ne pas les citer, mais c'est celle qui donc CNRS et INRIA, avait été rédigée par des centres de recherche français parce qu'ils considéraient, et c'est une vision très juridique, mais très juste et très juridique, ils considéraient que les licences open source ne répondaient pas au formalisme et aux obligations auxquelles ils étaient assujettis. Et donc, créer ces licences permettait de lever un frein à l'open source. Et donc, c'était une réponse intéressante de ce point de vue-là, en disant on peut diffuser sous licence CC, et puis en plus, elle est compatible avec la GPL. Donc, plus tard, les gens, s'ils veulent pouvoir fusionner, reprendre une partie de notre code pour développer, le réutiliser dans un autre projet, ils pourront le faire. La licence UPL, c'est un peu différent, c'est l'Europe qui dit de par mes statuts, en fait, je peux pas m'engager comme un quidam. Je peux pas être. L'Europe ne peut pas se retrouver devant le tribunal, je dis n'importe quoi, hein, de Caroline du Sud, parce qu'il y a eu contrefaçon. Et donc il y a une posture qui était de dire, en fait, il faut nécessairement qu'on ait des contrats qui soient adaptés à la spécificité qui est l'Europe au vu du monde entier. Et donc, nouvelle licence qui n'est pas une licence inintéressante, mais qui là aujourd'hui est utilisée essentiellement par l'Europe pour ses propres programmes et qui n'a pas vocation à être utilisée par d'autres projets. En fait, telle qu'elle a été rédigée, c'est une licence qui permet surtout à d'autres projets de reprendre du code qui a été développé sous licence UPL, mais c'est pas une licence qui vise à centraliser sur ses propres des développements de tiers sur ses propres projets. Les licences Cécile en France, c'est un peu différent. Je pense que à l'époque, donc il y avait ce besoin. Aujourd'hui, il y a plus besoin. Et donc, les gens utilisent des licences libres open source classiques, n'ont plus besoin d'utiliser les licences Cécile pour être rassurés. Au contraire, moi, j'ai plutôt tendance, lorsqu'on en discute avec les centres de recherche, à les déconseiller d'utiliser les licences Cécile parce qu'en fait, ils se retrouvent, ça reprend ce que j'évoquais tout à l'heure, sans support interne ou voire parfois avec des désaccords sur la manière d'interpréter les licences. Moi, je pense que la majorité du temps, quand on utilise une licence libre open source, c'est pour se simplifier la vie. Tout ce qui complique la collaboration, l'interprétation, qui amène à des discussions, négociations supplémentaires, c'est plutôt à éviter.
En fonction des licences utilisées, ça peut être plus ou moins compliqué pour un développeur de contribuer à un projet. Donc, je suppose que si tu es contributeur étranger sur un projet qui utilise une licence Cécile, ça doit être plus compliqué.
Ah, disons que ça fait très cocorico. Ça affiche le drapeau français. Ceux qui connaissent les licences vont dire de toute façon elle est compatible avec la GPL, donc j'ai même pas besoin de la lire, je vais réutiliser en GPL. Et ceux qui connaissent pas la licence, qui vont la lire pour essayer de la comprendre, c'est compliqué. D'autant que si on lit l'ensemble des licences Cécile, Pour moi, il y a des vrais sujets de... C'est pas aussi fluide et clair que ça devrait l'être.
Tu as évoqué le fait que quand tu es arrivé, au départ, vous étiez dans une petite communauté de juristes et que vous parliez beaucoup. Qu'est-ce que ça représente, la communauté française des juristes dans laquelle tu travailles? Et je suppose que c'est pas une communauté très grande, c'est que vous connaissez tous.
Alors, oui, il y a pas beaucoup de juristes qui travaillent sur ces sujets, et il y en a pas mal qui sont passés par le cabinet, d'ailleurs. Je pense qu'on alimente aussi par les stages, par les personnes qui passent chez nous, cette formation, acculturation au livre, et ensuite c'est maintenu. Alors, dire combien de juristes sont aujourd'hui mobilisés sur ces sujets, c'est pas facile. Je pense qu'en France, donc globalement, c'est surtout les juristes des entreprises qui font soit qui développent des logiciels open source, des livres open source, qui ont cette sensibilité, soit de plus en plus des grands utilisateurs de logiciels libres open source qui sont obligés de monter en compétence sur la partie open source compliance, donc mise en conformité de leurs logiciels au regard des licences des composants open source qu'ils utilisent. Ça vient doucement. Moi, c'est peut-être une manière de le compter. Tous les ans, on donne de la formation et tous les ans, je pense qu'on forme une vingtaine de personnes. Donc voilà, depuis 10 ans. Et on n'est pas les seuls à donner une formation sur ces aspects-là, mais presque. Genre, je pense que c'est assez représentatif quand même des personnes concernées. Et au-delà des juristes au sein des entreprises, il y a les avocats. Il y a pas de cabinet d'avocats direct qui fait que ça, qui ne soit concentré que sur l'open source. En revanche, il y a quand même pas mal de cabinets plutôt orientés numériques qui commencent à montrer une compétence sur ces sujets parce qu'ils ont suffisamment de clients pour maintenir leur niveau d'expertise. Et à l'échelle européenne, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un réseau animé par la Free Software Europe de juristes. Alors, c'est très ouvert. Puis d'ailleurs, il y a plein de juristes américains. Aujourd'hui, on est plus de 500, je crois, à l'époque. Donc, c'était en dizaines il y a plus de 10 ans. Maintenant, c'est en plusieurs centaines. Je pense qu'on est bien plus que 500, d'ailleurs, maintenant. Et là, c'est des échanges entre juristes pour pouvoir mettre sur la table un peu les sujets du moment. Parfois identifier les ressources clés aussi pour anticiper les conflits lorsqu'il y en a, parce que ça arrive. Mais donc c'est notre manière aussi de voir que la communauté s'est quand même énormément diversifiée. Et des projets comme SPDX, qui sont technico-juridiques, donc SPDX, il y a deux faces, mais l'une des faces, c'est de pouvoir avoir un identifiant unique par licence. Et la seconde, c'est de pouvoir avoir un fichier qui est un format qui concentre toutes les informations des métadonnées d'un package, donc d'un projet global. C'est dit qu'il y a plein de juristes aussi, de plein d'organisations. Donc on voit quand même que la compétence est de plus en plus partagée.
Comment vous parlez dans la communauté? Est-ce que vous avez des meet-up comme dans Logiciel Libre? On peut se retrouver par exemple au FOSDEM et faire nos réunions d'équipe. Comment est-ce que vous collaborez ensemble entre juristes de différents pays?
Alors ça se fait surtout par les événements, je dirais. Voilà, il y a le mailing list dont je parlais tout à l'heure, les diffusions d'FSFE. Sinon, c'est plus des événements. FSFE, on organise. Nous, on organise aussi un événement annuel qui s'appelle EOL, European Open Source and Free Software Law Events. Et c'est un exemple. En fait, l'intérêt de ce type d'événement, c'est de pouvoir se rencontrer, échanger, mettre un peu à jour nos pratiques respectives. EOL, pour cette année, alors c'est un peu en lien avec ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a un événement final en présentiel à Paris en décembre, mais on organise quelques webinars, workshops, même si c'est plus des ateliers de travail. Le dernier, c'était, moi j'ai animé le premier, le deuxième était animé par Malcolm Bain, qui est un avocat espagnol qui est très impliqué sur ces sujets. Il y a une vingtaine de personnes. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment des juristes qui mettent un peu qui partagent tout ce qu'ils peuvent partager, à la fois sur les besoins et sur les réponses apportées de leur côté. Il y a plus de besoins qu'il y a de réponses aujourd'hui, mais c'est le but justement de ce partage.
Tout à l'heure, tu parlais d'une licence et de faire des clarifications. Sur des licences archi connues, comme par exemple une GPL V3, une AGPL V3, est-ce qu'il y a toujours des choses à clarifier ou alors est-ce que c'est plutôt sur des licences plus récentes ou moins utilisées?
Alors, il reste toujours des zones d'ombre sur des licences de type GPL, mais qui sont des zones d'ombre volontaires. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas forcément de consensus dans la communauté des juristes là-dessus, mais la licence, c'est un instrument de négo aussi, et ça peut être utilisé pour tordre un peu le bras de ceux qui ne voudraient pas partager. En tout cas, il y a toujours cet enjeu de... Tout le monde autour de la table n'a pas les mêmes objectifs, donc il faut être conscient du fait qu'on ne soit pas tout le temps d'accord, de telle manière à se ménager quelques armes en cas de désaccord. Et donc, je pense, dans les licences type GPL, il y a des choses qui sont interprétées, notamment dans les FAQ de la FSF, Freedom of Information, de manière ultra extensive, ou alors de manière assez biaisée. C'est-à-dire, quand on lit la FAQ, les questions sont posées de telle manière à ce que les réponses soient évidentes. Pour autant, parfois, les questions ne sont pas aussi simples. Donc, cette dimension d'interprétation de licence, alors pour moi, c'est un enjeu. On essaie d'accompagner dans une maximisation qu'il y ait de plus en plus de personnes qui utilisent, qui rejoignent les communautés open source. Et pour nous, ça passe par une acculturation et par gommer toutes les zones d'ombre. Sur la partie interprétation, on a lancé un projet, ça je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça rejoint un peu ce que j'évoquais, qui s'appelle Hermine. C'est à la fois un logiciel donc de mise en conformité en interne des organisations de mise en conformité de l'open source, notamment d'un point de vue des aspects juridiques, et une base de données ouverte aussi, sous licence open data, d'interprétation, en tout cas de compréhension liée aux licences. Et le but, c'est de faire ce travail de plutôt que d'avoir chacun une lecture différente d'une même licence, ou des lectures convergentes, on ne sait même pas, d'avoir un standard, une lecture un peu consensuelle qu'on peut avoir de cette licence en se disant qu'ensuite chacun peut instancier chez lui le logiciel et modifier la base de données, mais qu'on parte d'un point de départ pour faciliter le consensus, pour aussi mieux gérer les risques. Et donc, je pense qu'il reste encore un effort d'interprétation, mais on commence à trouver des solutions qui parfois sont techniques. Là, l'exemple d'Hermine, c'est technique, même si ça repose d'ailleurs sur une communauté de juristes qui l'alimente. Et c'est une bonne chose, parce que l'intérêt de la technique là-dedans, c'est quand même de... on a des canaux qui sont un peu, la forme est là, et donc on est obligé de se mettre d'accord sur ce qui passe dans ces tuyaux, et c'est une bonne chose parce que ça simplifie les réponses en interne et en externe aussi, puisque l'un des enjeux de l'open source, c'est aussi la collaboration qu'on va avoir avec les autres acteurs de la supply chain. Donc oui, l'idée, c'est qu'on soit à peu près en face sur les réponses qu'on peut apporter à chaque compréhension des licences qu'on utilise globalement.
Imaginons que je suis quelqu'un qui veut faire du logiciel libre. Je vais déposer mon code sur une plateforme. Il va falloir que je choisisse une licence. Si je ne suis pas un expert, quelles sont les grandes choses auxquelles il faut que je fasse attention? Et où est-ce que je peux trouver de la doc pour en savoir plus sur ces sujets-là?
Alors, pour répondre au premier point, lorsqu'on veut diffuser sous licence libre open source, première question, c'est est-ce qu'on est en capacité de le faire? Donc déjà, de savoir quelles sont les contraintes qu'on a en interne. Au sein de l'organisation, d'une part, parce que on peut avoir des contrats avec des tiers, peu importe, mais il peut y avoir des engagements contradictoires. Et au regard du projet aussi. Alors que le projet, notamment s'il utilise des dépendances qui sont soumises à des licences contraignantes, quelles qu'elles soient, hein, ça va conditionner le choix qu'on peut faire in fine de notre propre licence. Sur le projet aussi, alors d'ailleurs sur l'organisation, sur le projet, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. On est une organisation, je dis n'importe quoi, française ou européenne, et on va se dire, tiens, nous on va plus, je suis une administration française, le nombre de licences, le choix que je peux faire en termes de diffusion sous licence libre, il est limité. Il y a une quinzaine de licences qui peuvent être utilisées par les administrations françaises et pas d'autres. Il y a une liste en décret Premier ministre. Bon, très bien, il faut le prendre en compte. Le projet lui-même, c'est un projet qui fonctionne en SaaS. Pareil, il faut prendre en compte les spécificités liées au projet, parce que toutes les licences n'intègrent pas ces typologies d'exploitation. Donc une fois qu'on a une vision un peu claire de quels sont nos besoins et nos contraintes aussi internes, on liste une manière dont on processe quand on veut essayer de rationaliser un peu le choix de licence. On liste nos objectifs. Est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous? La simplicité, le côté international, la modularité, la compatibilité avec les autres projets. Donc on liste quelques éléments comme ça. On peut vraiment le faire sur une feuille blanche qui permet d'objectiviser le pourquoi on choisirait telle licence ou telle autre. Et une fois qu'on l'a fait, c'est assez facile de se dire, finalement, la licence, il y a énormément de licences libres open source, on l'a dit tout à l'heure, mais globalement, les licences les plus utilisées, c'est une quinzaine de licences, 10-15 licences. Donc, on peut prendre ces licences les plus connues, les plus utilisées, et juste sur la base des critères qu'on a établis avant, déterminer celles qui répondent aux besoins. Et c'est assez facile, une fois qu'on a fait cet exercice, et ça peut prendre vraiment pas beaucoup de temps, de converger vers le choix de la Fero GPL ou le choix de la licence Apache. Et d'ailleurs, ce qui est parfois intéressant, c'est de constater que à l'aune des critères qui sont importants pour nous, alors c'est un peu plus compliqué quand on est dans un grand groupe qui a plein de personnes avec plein de besoins différents, parfois incompatibles, mais bon, ça peut se concilier. En tout cas, une fois qu'on a tout posé à plat, c'est assez intéressant de voir que parfois, il y a deux licences complètement différentes qui peuvent être tout à fait pertinentes pour le même projet. C'est un choix. On a un moment où il faut qu'on choisisse. Soit on va sur l'exemple qui vient en tête, sur de la Fero GPL, parce qu'en fait, on veut vraiment orienter vers la dimension copyleft du projet, s'assurer que toutes les contributions soient bien reversées, repartagées, ainsi de suite. Soit on choisit les licences Apache, parce qu'on se dit, finalement, ça va maximiser les utilisations, et globalement, on sait que les acteurs qui nous intéressent vont effectivement reverser, ou alors on met en place d'autres dispositifs qui sont pas forcément juridiques, pour qu'ils soient incités à rediffuser les contributions qu'ils apportent au projet. Tout ça, ça se comprend globalement. Et où est-ce qu'on trouve des ressources sur ces sujets? Alors, ben, il y avait Vinilibri qui était vraiment, c'était l'un des objectifs du site, qui aujourd'hui n'est plus en ligne, donc ça, c'est problématique. Sur Wikipédia, on retrouve pas mal d'infos. Faut quand même dire qu'à l'époque, Wikipédia, quand on avait lancé Vinilibri, était très incomplet sur ces sujets. C'est plus le cas. Maintenant, il y a énormément de ressources. Ensuite, des méthodologies un peu éprouvées. Moi, je sais que on avait partagé des choses, mais c'est plus sous forme d'articles ou de. Enfin, je trouve que c'est peut-être pas assez simple aujourd'hui de s'emparer de ces différentes étapes qui mènent au choix de la licence. Et ça me fait penser, mais voilà, ça vient juste comme ça, que ça mériterait peut-être d'avoir une sorte de matérialisation, une mise en forme juste sur une page de tout ce que je viens de dire pour clarifier là. Je dois choisir ma licence, voilà les différentes étapes et ce vers quoi ça peut me mener. On le fait sur d'autres projets, en train de travailler sur une sorte de, ce qu'on appelle un common model canvas, une sorte de business model canvas, mais adapté à la mise en place d'une logique de commun au sein d'une communauté. Donc, produire des ressources ouvertes qui soient gérées et maintenues par ses utilisateurs. Et ça, c'est des choses où, finalement, il y a un peu de jus de cerveau au début, mais une fois qu'on l'a mis on peut le mettre sur du A4 ou du A3, et c'est assez incapacitant. Les personnes peuvent assez facilement ensuite s'en saisir. Donc, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais ça serait utile.
Quand je fais des interviews de projets libres, à chaque fois, je demande quelle licence ils ont choisi et pourquoi. Et les réponses sont assez intéressantes. Si je prends par mon exemple, dans les logiciels que j'utilise, on va trouver souvent deux licences qui sont assez opposées. Il y en a beaucoup qui vont choisir des licences AGPL, parce qu'ils veulent être sûrs que toutes les contributions sont bien versées, mais à l'opposé, il y a pas mal de projets qui utilisent une licence MIT. J'ai toujours eu un peu un problème avec ça parce que pour moi, la licence MIT, c'est en gros, on te fournit le code source et puis après, tu fais ce que tu veux avec, tu peux l'inclure dans un logiciel propriétaire. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de choisir une licence MIT?
Sur l'exemple MIT ou Apache, mais MIT, je pense que justement, là, c'est vraiment les projets qui sont dans une recherche de simplicité à outrance. Alors, en fait, tout ce qui serait un peu trop juridique, trop compliqué, on préfère le mettre de côté et finalement c'est des projets qui considèrent que les contributions, si y en a pas, c'est pas très grave, et si elles doivent venir, elles viendront. Il faut qu'il y ait aucun frein à l'utilisation. Si c'est le MIT, c'est parce qu'on veut de la simplicité à outrance, et on veut que la lecture se fasse ces 5 lignes. Hein. La licence Apache, c'est quand on est dans une logique de, on veut favoriser l'usage, mais on veut quand même sécuriser juridiquement. Et pour moi, elle est assez connue pour que justement, c'est un standard. Les gens ne vont pas aller lire la licence Apache à chaque fois qu'ils la voient. Ils comprennent que c'est la licence Apache et ça leur suffit. Et l'avantage MIT ou Apache, mais encore plus Apache, c'est d'un point de vue communauté plus industriel, ça va être un gros plus à la contribution parce qu'en fait, ça les rassure. MIT, c'est peut-être plus des communautés, d'ailleurs, dans la recherche, c'est très utilisé. Et là, c'est plus une affinité. Il n'y a pas de vrai, c'est pas rationnel. C'est juste que les chercheurs ont l'habitude et donc sont à l'aise avec des projets qui sont licences MIT. Quand ils voient d'autres projets, ça peut les rebuter, ou en tout cas, simplement, s'ils doivent le comparer à un autre projet qui ressemble mais qui est sous une licence MIT, ils vont favoriser le projet MIT. Donc, il y a ce côté un peu communication par l'utilisation de la licence open source qui peut être important. Ça, c'est ce qui ma première réponse. Et la question de la manière dont on peut engager, au-delà de la dimension du choix de la licence, mais je pense que c'est toute la question des outils et qu'on met à disposition de la communauté, de la manière dont on anime, mais dans le sens vraiment, on fournit tous les process, les règles, le cadre pour que les acteurs se sentent en confiance, puissent partager facilement contribuer, partager leur contribution sur le projet sans se sentir complètement stupide parce qu'effectivement c'est leur début. Enfin, c'est plus ces dispositifs-là qui vont être utiles. Et d'un point, ça c'est pour des projets qui sont assez communautaires et ouverts et plus avec des individus. Et pour des projets qui vont concerner des organisations, là on va penser plus des partenariats ou des logiques de, alors je pense encore à autre chose, mais des logiques de distribution aussi. En disant, mais finalement, vous avez un intérêt à participer à ce projet-là parce que vous allez vous-même avoir votre business. Et donc, il y a d'autres contrats à côté qui viennent sécuriser l'ensemble. Un point qui est important, on parle des licences, mais dans un projet, il y a d'autres aspects qui permettent de sécuriser. Je pense notamment aux DCO. Les DCO, c'est ces petits documents qui sont des, alors moi, je sais plus quel terme j'utilisais en français, mais je disais attestation de paternité, ou en tout cas, globalement, c'est juste une déclaration de l'auteur qui dit que ce qu'il met sous le projet, il est conscient que ça, c'est diffusé selon la licence du projet. Donc déjà, il valide que sa contribution sera bien diffusée sous licence, et qui reconnaît, qui atteste et reconnaît qu'il a bien les droits sur ce qu'il contribue, et que s'il les a pas, il a les autorisations des personnes concernées. Et ça, c'est des choses qu'on voit quasiment systématiquement aussi aujourd'hui, qui sont dans une logique complètement horizontale, dans le sens où on cherche pas à centraliser les droits, chacun reste titulaire de ses propres droits, mais qui permettent de gommer d'autres risques, de réduire d'autres risques qu'on a dans l'open source, qui est qu'on utilise des contributions qui sont amenées par des personnes qu'on connaît pas, et que si la personne amène n'importe quoi, on est responsable. Il y a des procès qui ont été perdus là-dessus. Alors, un procès, il faut que derrière il y ait une société, sinon ça sert à rien de l'attaquer. Mais donc là, c'était une société qui avait un projet communautaire et qui automatiquement mettait sur son site la version sans aucune validation de l'ensemble des contributions qui étaient apportées au projet. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, de bonne foi, a pris du code qui lui appartenait pas, l'a contribué au projet. La société qui publiait le code s'est retrouvée en situation de contrefaçon parce qu'elle publiait le code d'un tiers sans son autorisation et elle s'est fait condamner. Là, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut réduire ce type de risque dans un projet communautaire, parce qu'on a intérêt à ce que les gens contribuent, mais il ne faut pas non plus que ça nous génère un risque trop important pour l'organisation.
Est-ce qu'il y a des licences où on sait qu'il y a plus de procès ou de procédures que d'autres ?
Alors, oui. En fait, les licences copyleft, donc avec obligation de partage à l'identique, telles que la GPL, c'est la plus connue, hein, mais la Ferro GPL aussi, la MPL, l'Active Public License, le UPL, bon, il y en a plein. Les licences copyleft, elles ont des obligations qui sont assez contraignantes parce qu'elles imposent le partage des évolutions du projet, avec parfois des zones grises. On ne sait pas exactement quel est le périmètre de ce qui doit être repartagé. Donc c'est là où parfois il y a justement ambiguïté, donc conflit. Mais ces licences, par ces obligations particulières, elles vont amener à plus de procès parce qu'en fait, lorsque ces obligations ne sont pas respectées, ceux qui ont partagé le code, les auteurs et titulaires de droit, ont tendance à agir assez violemment en disant écoutez, là, nous, c'est la principale condition qu'on associe à la réutilisation de notre code, si vous le faites pas, vous êtes contrefacteur et on vous avertit une fois, la deuxième fois, on tapera très fort. Ça, c'était, donc je pense que c'est plutôt ces licences-là. Maintenant, pour relativiser ce que je viens de dire, il y a quand même beaucoup de procès qui concernent uniquement un non-respect du formalisme. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se sont dit je partage pas le code source du projet que je réutilise, parce que de toute façon, il est disponible sur GitHub à tel endroit. Donc, ils fournissent juste le lien. Oui, mais la licence vous demande de fournir le code source, pas le lien. Les sociétés maintiennent leur positionnement et le juge lit la licence et considère qu'effectivement, elles auraient dû faire plus que ça et condamne la société pour non-respect de la licence. Donc là, c'est un peu bête, parce qu'en fait, s'ils avaient été un peu à l'écoute de la communauté et qu'ils avaient mieux cerné les risques, dans le sens... pris en compte le principe même des licences libres open source qui est de s'appuyer sur la propriété intellectuelle et donc le risque d'action contrefaçon si c'était pas respecté, toutes ces organisations n'auraient pas été condamnées comme elles l'ont été.
C'est un sujet qui revient régulièrement. Si tu fais un projet libre, t'as pas forcément beaucoup d'argent. Et si tu penses qu'il y a une violation de licence, dans ce cas-là, quels sont les organismes que tu as été à disposition dans la communauté du libre pour t'aider à te défendre ? Car ça peut coûter très cher.
Alors, le point, c'est que n'importe qui ne peut pas agir pour non-respect d'une licence. Je fais un aparté rapide, mais il y avait pour une République numérique, Axel Le Maire, en 2016, il y avait une proposition d'un article qui visait à ce que des sociétés puissent défendre l'intérêt de... Alors, il parlait des communs, mais ça aurait complètement concerné le logiciel libre. Donc, de communautés qui n'étaient pas... de personnes qui diffusaient librement leurs produits, mais qui n'étaient pas en capacité d'agir par eux-mêmes. Et donc là, il y aurait eu des associations, type association de consommateurs, qui auraient été en capacité d'agir pour le compte d'eux. Ça n'a pas été retenu dans la loi telle qu'elle a été publiée in fine. Et c'est bien dommage, parce que c'est le problème aujourd'hui, c'est que seuls les titulaires de droits sont en capacité d'agir pour violation de leur licence. Et donc, si ces titulaires ne sont pas structurés dans une association, dans une fondation, qui a une entité juridique, qui a les moyens de pouvoir agir en justice, parfois c'est un peu David Congoliath. C'est quand même très difficile d'envisager d'agir contre un énorme acteur. Néanmoins, en Allemagne, Harald Welte, donc il y a énormément de procès en Europe et notamment en Allemagne qui ont été initiés par la même personne, individu qui était un contributeur à Linux, à Busybox, et qui sur ce moment-là en fait avait la capacité, un intérêt, la qualité d'agir. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il agissait lui, mais il était soutenu par des structures associatives locales qui le finançaient finalement dans ses actions. Ce qui était d'autant mieux que il le faisait pas pour gagner de l'argent, il le faisait juste pour faire respecter les licences. Et ce qu'il demandait, c'était que l'indemnisation des coûts du procès. Donc c'était pas rentable et il aurait, je pense que c'était une application très louable et forte de sa part, mais lui demander en plus de tout payer, c'était compliqué. Il y a quelques structures qui sont des structures un peu parapluies, des fondations parapluies, des structures qui aident les projets. Celle qui irait plus dans ce sens-là, c'est Software Freedom Conservancy, avec Bradley Kuntz, qui joue ce rôle d'héberger des projets, mais aussi d'agir pour défendre les intérêts des projets. Ils ont initié quelques procès, alors c'est très compliqué quand même, parce que souvent, les personnes qui sont en contrefaçon sont aussi des partenaires, c'est le principe, donc c'est un peu le bâton d'un côté et la carotte de l'autre, et c'est pas toujours simple de savoir qui tape et qui propose la carotte, donc qui cherche à s'appuyer sur ces nouveaux entrants dans le logiciel libre open source pour renforcer l'écosystème, et qui tape sur ces mêmes acteurs parce qu'ils font pas encore bien les choses, donc parfois c'est complexe. Et donc il y a une structure, moi je pense au SFC, comme celle-ci, et en France, par exemple, je sais que c'était la Free Software Foundation France, je crois, donc elle a un chapitre, une association locale, qui avait aidé aussi Harald Welte pour agir contre Free à l'époque.
La Free Software Foundation France, elle aide par quel moyen? Elle met à disposition des ressources ou de l'argent?
De ce que je sais, mais là je ne suis pas assez impliqué dans la structure elle-même. Pour moi, la FSF France, c'est une coquille, ça permet juste de soutenir des actions. Je suis pas sûr qu'ils aient de budget dédié, qu'ils puissent vraiment donner les moyens financiers. En revanche, ils font les contacts, ils font le réseau, l'interface avec d'autres acteurs qui ont les moyens et qui peuvent participer à. Donc je pense que là, à l'époque, c'était plus pour apporter un soutien et faire en sorte que l'action puisse aboutir, parce que pour quelqu'un qui n'est pas domicilié en France, d'arriver et d'agir, c'était loin d'être simple. Et je pense qu'ils ont fait cette intermédiation finalement qui a rendu possible l'action. À ma connaissance, il y a pas de fonds dédiés, sauf peut-être dans les fondations qui ont leur propre budget. Et juste pour finir là-dessus, j'ai oublié son nom, mais il y avait aussi dans la communauté Linux une personne qui avait été un peu le troll sur le sujet, un contributeur historique qui agissait, mais à dessein personnel, c'est-à-dire qu'il agissait contre plein de boîtes en juste pour pouvoir gagner de l'argent sur la base du non-respect des licences. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la communauté s'est désolidarisée de ce comportement, justement parce que pour eux, c'était pas conforme à l'esprit du logiciel libre, l'open source. Et je pense que c'est une bonne chose, même si c'est pas encore tout à fait pérenne, mais que ça soit pas un business en tant que tel, que d'attaquer des organisations parce qu'elles utilisent mal ou elles sont pas conformes aux licences. C'est un process qui prend du temps pour le voir avec tous les acteurs avec lesquels on travaille. C'est des gens qui sont quand même plutôt de bonne volonté. C'est rare qu'il y ait, c'est exceptionnel qu'il y ait une volonté de nuire ou qu'il y ait une vraie connaissance de la mauvaise application des licences.
Si je reviens sur toi et sur le cabinet InnoCube, c'est quoi tes sujets quotidiens et vos sujets actuels?
Donc on travaille principalement sur les logiciels libres open source, un peu open data et open source hardware. Et on travaille sur parfois des démarches qui sont un peu plus macro, en tout cas global, type open science, open innovation ou pour science ouverte et innovation ouverte, donc plus des postures dans l'innovation. On intervient à trois niveaux principalement. Niveau des projets, on fait l'audit de code, donc là c'est vraiment d'identifier dans le code qui est utilisé l'ensemble des dépendances, les dépendances récursives, donc d'avoir un software bill of material le plus exhaustif associé auquel sont avec chaque licence qui leur sont qui correspondent à chaque partie de ces dépendances et de ses composants. On fait souvent ce travail de rectifier aussi les informations de licence qui sont pas les bonnes, parce que c'est encore beaucoup de métadonnées et c'est tout à fait perfectible. Et d'en ressortir une analyse et une idée précise de quels sont les tenants et aboutissants au regard de l'ensemble de ces composants utilisés. Ça, le côté SBOM, c'est une partie de notre activité. On fait beaucoup sur le projet toujours de valorisation du projet. Donc, de définir quel est le modèle économique vers lequel on peut tendre en fonction des besoins, de ce à quoi répond le projet et de ses besoins et des communautés cibles. Ensuite, on fait beaucoup aussi de stratégie et de politique open source. Donc là, c'est vraiment aller à la rencontre de l'ensemble des départements d'une organisation, comprendre quels sont leurs process, leurs enjeux, leurs moyens, et de voir dans quelle mesure ils peuvent changer pour mieux intégrer la conformité open source. Alors c'est un peu plus que conformité, parce qu'on intègre aussi tout ce qui est soutenabilité, donc vision des communautés sous-jacentes, éventuellement il peut y avoir des liens avec la qualité ou la sécurité. Alors ça, c'est plus pour les acteurs privés, il y a quelques boîtes publiques aussi. On fait un peu de politique publique, donc là c'est d'intégrer dans les des politiques, alors avec France Relance, il y en a eu pas mal en plus, cette idée de tout ce qui va être financé doit être diffusé sous licence libre open source, doit être produit dans le cadre de communautés qui pérennisent aussi les ressources dans le temps, donc de penser à ça. Le dernier point, le dernier niveau d'intervention, c'est plus écosystème dans le domaine de la mobilité. Là, on est sur les véhicules intermédiaires. On l'a fait encore dans d'autres sujets. C'est de se dire comment est-ce qu'on réunit tous ces acteurs qui donc d'un marché plus ou moins développé pour qu'ils puissent produire des ressources ouvertes, partagées et les maintenir dans le temps. Donc là, c'est vraiment une vision systémique dans lesquels les logiciels libres, open source, open data sont autant de moyens en fait d'amener une collaboration à une clarification du cadre de collaboration de ces acteurs.
Mais sur ce sujet des SBOM, là, des nomenclatures logicielles, c'est des entreprises qui viennent vous voir pour que vous fassiez ce travail ? Parce que moi, je l'ai vu faire chez des industriels français quand j'étais en Presta, et c'est un travail qui est vraiment long, fastidieux et qui demande des sacrées compétences techniques.
Oui. Là, c'est des entreprises où on le fait pour le compte des collectivités aussi pas mal. Il y a pas mal de collectivités territoriales qui sont dans cette logique de on diffuse le projet en open source, on permet à d'autres collectivités de pouvoir les utiliser parce qu'ils ont les mêmes besoins, les mêmes missions que nous. Et ensuite, il y a des entreprises qui nous demandent aussi de les aider là-dessus. Alors, on le fait, généralement, c'est pas des choses qu'on essaye de pérenniser dans le sens où on le fait pour les faire monter en compétences et on essaye de documenter, d'accompagner aussi dans la compréhension, la méthodologie, ces acteurs-là. Parce que c'est pas le plus, parce que c'est nécessaire, mais effectivement c'est fastidieux et le but c'est quand même que ça soit le plus automatisé possible. Hermine vise vraiment à automatiser le maximum de ça. Le but d'Hermine c'est de pouvoir propager chaque décision qui est prise et mutualiser. En fait, quand dans un projet on détecte une dépendance qui je dis n'importe quoi, qui comme licence finalement a le mauvais identifiant SPDX. Alors on le corrige une fois et le but c'est que ça soit corrigé pour toutes les autres occurrences de cette même dépendance. Et ça c'est des choses qu'on essaie d'associer, en tout cas de les outils. Le but d'Hermine c'est qu'ils aient aussi les outils qui leur permettent de le faire durer dans le temps. Et oui, dernier point, c'est que effectivement c'est des choses qui sont longues, mais c'est aussi un métier assez assez complexe en tant que tel, générer des software bill of material. Il y a un vrai regain d'intérêt, une prise de conscience de ça, notamment. Parce qu'aux US, maintenant, c'est quelque chose d'obligatoire. Dès lors qu'on travaille avec l'État, il faut fournir des SBOM exhaustifs. Donc, il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui se positionnent dessus. Et c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'avant, ce qui était livré aux clients ne correspondait pas à ce qui fonctionnait réellement sur les serveurs in fine. Donc, il y avait une méconnaissance, à cause du numérique, de la complexité peut-être du développement, assez énorme de ce qui était vraiment acheté et de ce que ça a emporté en termes d'incidence et de licence.
Au niveau de l'État français, qui travaille sur ces sujets ?
En France, la DINUM a une en interne est assez structurée avec un pôle logiciel libre et commun numérique. Ils sont plusieurs maintenant et c'est aussi le rôle de la DINUM que d'avoir une vision infrastructure de l'ensemble des administrations, d'aider les autres ministères à intégrer. On a travaillé avec eux sur la politique de contribution logicielle libre de l'État français il y a quelques années et qui visait aussi à être instanciable par n'importe quel ministère. Ensuite, au-delà de la DINUM, c'est des sujets qu'on entend. Dans les centres de recherche, c'est assez fréquent et c'est même il y a un vrai besoin parce que il y a beaucoup d'open source dans la recherche et dans la valorisation qui est faite des projets de recherche. En revanche, c'est des compétences qui sont encore peu connues et développées et donc on intervient souvent avec eux. Ensuite, d'un point de vue plus stratégie politique. Des acteurs assez moteurs, c'est par exemple l'ADEME, l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Mais là, récemment, on a fait une mission pour le ministère de l'Éducation nationale. Pareil, en fait, qui de plus en plus utilise l'open source dans le cadre des services qu'ils fournissent au territoire et incite aussi à la production de logiciels libres open source. Et pardon, j'y pense, en Europe, il y a comme une incitation assez forte aux logiciels libres. Au commun numérique aussi. Alors, j'utilise le terme commun numérique de manière volontaire. C'est quand même la terminologie qui simplifie parfois l'accès, en tout cas le changement de posture d'acteurs publics et privés. pour moi, c'est assez représentatif du logiciel libre tel qu'on l'entend. C'est-à-dire que c'est orienté, c'est finalisé. C'est-à-dire qu'on pense aux utilisateurs, on pense aux communautés. Et l'idée des communs, c'est justement que ces communautés se saisissent finalement de ce dont elles ont besoin. Et donc, ça tend vers du logiciel libre alors qu'on parle de commun numérique. L'Europe le fait de plus en plus. C'est une prise de conscience qui est importante parce que ça renforce et ça soutient les politiques ensuite des États et dans les États des agences. Et au-delà de ça, à l'échelle européenne, il y a aussi des mutualisations qui sont intéressantes. J'avais mené une mission il y a un an pour l'Europe qui s'appelait FOCEPS, qui visait à identifier les logiciels open source critiques utilisés par les administrations au sens ultra large, donc les villes françaises en font partie, donc tous les acteurs publics, de se dire finalement qu'est-ce qui est stratégique, critique. Et c'était à la fois lorsqu'il y avait un usage entre guillemets très important, quand on se rend compte qu'il y a une bibliothèque ou un logiciel qui est utilisé par toutes les collectivités, j'exagère, mais oui, donc c'est critique, faut pas que ça ne fonctionne plus, il faut faire attention à ce qu'il y a de vulnérabilité, ainsi de suite. Et l'autre situation, c'était critique parce que dans des situations qui sont effectivement critiques, je dis n'importe quoi, c'est pour favoriser le rôle du SAMU dans la calcul des itinéraires. Faut pas que du jour au lendemain ça fonctionne plus. Je peux peut-être pas le meilleur exemple, mais il y avait cette autre dimension aussi. Et ça, c'est intéressant de voir que l'Europe se saisit de cette vision un peu haute et stratégique de l'open source et dans l'idée d'apporter des réponses qui, pour certaines, sont des financements, mais pas que.
C'est bien qu'on parle de l'Union européenne, hein, parce que moi, de mon passé libriste, j'ai peut-être un biais, mais j'avais l'impression qu'en France ou en Allemagne, on était plutôt bien lotis et parce que c'est possible de vivre du logiciel libre. Est-ce que pour toi, il y a des pays qui sont plus en avance en termes de structuration open source? Ou est-ce que finalement, ils en font tous à leur échelle de manière différente?
Je pense que France-Allemagne, on est plutôt bon, effectivement. Les Allemands, très industriels dans la digitalisation de l'open source, donc ils ont des réponses très industrielles aussi de qualité. Pays-Bas, pareil d'ailleurs, un peu avec beaucoup ensemble. L'Italie, c'est beaucoup plus politique, parce qu'il y a une obligation que tout ce qui est acheté, soit par l'argent public, soit open source. L'Espagne, je pense notamment à Barcelone, il y a des logiques plus de commun, donc c'est assez intéressant, c'est de faire en sorte qu'il y ait des communautés de fournisseurs, donc acteurs économiques, et des communautés de collectivités qui se fédèrent pour pouvoir maintenir dans le temps. UK, en tout cas, tout ce qui était Royaume-Uni, c'était plus une des logiques d'interopérabilité, mais qui allait aussi vers un usage, maximisation de l'open source. Ensuite, Grèce, en fait, non, globalement, de partout, on voit des choses intéressantes, mais je pense que c'est à chaque fois relativement différent. C'est intéressant de voir aussi la différence qu'il y a entre toutes ces actions-là.
Finalement, c'est intéressant quand tu discutes avec des gens et que tu arrives au même point, mais par des portes d'entrée différentes, ça doit être vraiment intéressant. Dernière question, est-ce qu'il y a des grosses questions européennes que vous suivez de près ou sur lesquelles vous intervenez?
Il y a la question des réglementations européennes qui pourraient avoir une incidence sur les communautés open source. On l'avait vu notamment pour toute la dimension la sécurité, en disant si on impose CRA, hein, Cyber Resilience Act, si on impose des contraintes trop fortes aux communautés open source au titre du nécessaire audit de vulnérabilité, en tout cas d'une sécurité, cybersécurité du secteur finaux, à la fois on comprend le besoin, mais en même temps c'est pas adapté aux communautés, et donc on va mettre à la charge des communautés des choses qu'elles ne peuvent pas générer. Et donc ça, c'était un vrai risque, dans le sens où une communauté, c'est pas une entreprise, elle fonctionne pas de la même manière, et au plus on lui impose des choses pas intéressantes à faire, au plus on désengage les acteurs. Je pense qu'il y a vraiment des sujets de ce type-là, à ma connaissance, donc il y a eu quand même pas mal de fondations en Europe, même d'acteurs, qui ont cherché à se mobiliser pour expliquer comment faire sortir les communautés open source de ces contraintes, de ce cadre. Un peu comme l'export contrôle aux US, parce que pour moi c'est la bonne manière de faire, c'est de dire dès lors que le projet est public, qui est diffusé selon une licence libre, on considère qu'on lui impose pas la même chose que si c'est un projet qui est pas public ou d'une organisation, donc permet de faire des distinguos. Donc ça c'est un point. Ensuite, ce que je trouve intéressant, mais c'est plutôt bénéfique pour le coup, c'est la manière dont l'Europe opère ses financements aujourd'hui. Je pense notamment à NGI. En tout cas, c'est de passer les...
Pardon, NGI, c'est quoi?
C'est New Generation Internet, je crois, si je dis pas de bêtises, et c'est des microfinancements. Ils sont à 20-30 millions. En fait, il y a non mais c'est au lieu de justement donner ces dizaines de millions d'euros à un projet avec des très gros acteurs et centres de recherche européens et puis à tous les 4-5 ans, ça recommence et on repart de zéro. Là, il y a des, c'est des non-profits, donc des structures type associatives qui sont délégataires de ces budgets et qui ensuite microfinancent, alors c'est à hauteur de 50 à 150K, mais plutôt du 50K, des projets très concrets. Je trouve ça super intéressant parce que c'est sur des phases, c'est sur 3, 6 mois, 1 an grand max, c'est sur des besoins très ponctuels, bien délimités, et ensuite c'est pas par part, c'est-à-dire que celui qui se fait financer une première fois, il peut se faire financer une deuxième fois. Et ça, je trouve que c'est des logiques qui sont très compatibles avec les communautés logiciels libres open source. Et c'est très simple d'y répondre. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une super évolution d'un point de vue financement européen. Parce qu'avant, ils étaient détachés du terrain. Et là, à l'inverse, moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus proches du terrain que la majorité des autres financements qu'on peut voir.
De tes propos, je dirais que, en termes de logiciels libres, l'avenir semble radieux, ou tout du moins, ça semble positif.
Bon, j'ai tendance à être optimiste, hein, de manière générale. On a la chance actuellement, il y a la dynamique qui est vraiment très favorable. C'est encore pas, c'est quelque chose de pérenne dans le sens où ça repose sur quelques individus, ça repose sur quelques expérimentations. Donc c'est pas cranté, c'est pas voilà gravé dans le marbre, mais c'est quand même tellement mieux que ce qu'il y avait dit il y a 10 ans. J'ai l'impression qu'on va dans le bon sens et qu'en plus avec cette convergence qu'il y a entre des actions de plein de ministères, des acteurs privés aussi qui comprennent ces logiques de mutualisation. Et donc de développement logiciel libre et communautaire des projets, on avance dans le bon chemin. Et je pense qu'au plus ça va, au plus le numérique ira vers ça. Alors, je pourrais mettre des réserves, mais je pense que maintenant, tout le monde a conscience qu'il faut s'approprier, en tout cas comprendre ce qu'on utilise, et qu'il n'y a pas de meilleure façon que de participer à la gouvernance des projets qu'on utilise. Donc, voilà, il y a une maturité croissante quand même, acteurs publics et acteurs privés. Et je pense que ça va vraiment dans le sens du développement du logiciel libre et d'une société plus libre et ouverte.
De mon point de vue, j'avais aussi l'impression que le RGPD avait donné un coup de fouet à l'utilisation du logiciel libre, avec toutes les problématiques de confidentialité et propriété des données.
En fait, surtout, pour moi, d'un point de vue, une question quand on parlait de Framasoft déjà rapidement, mais d'un point de vue privacy, en tout cas respect de la vie privée, ce dont on est conscient, c'est que si on s'appuie sur des solutions gratuites qui sont fournies par des acteurs outre-Atlantique ou chinois, oui, effectivement, nos données, c'est ce qui permet de rentabiliser leurs services. À l'inverse, si on s'appuie sur des acteurs locaux, si on peut pas le faire soi-même, on a d'autres coûts, mais qu'on maîtrise et on sait pourquoi on les a. Et donc, ça permet, pareil, de mieux comprendre, je pense, qu'on achète, pourquoi, comment, de mieux appréhender le numérique.
Il y a des sujets qu'on a à peine abordés qui mériteraient une émission complète. Hein. Je pense en particulier au modèle économique du logiciel libre, car c'est vraiment le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup. Puisque c'est l'heure de conclure maintenant, je vais te laisser la parole. Benjamin, est-ce qu'il y a des sujets ou un message que tu voudrais faire passer? C'est la tribune libre, c'est à toi.
J'ai déjà dit énormément de choses. Hein. Moi, tout ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que pour l'instant... Pour moi, j'aime bien l'expression la voie est libre, la route est longue mais la voie est libre. Non, mais globalement, on sent que le sens de l'histoire est celui qu'on avait en tête et c'est plutôt une bonne chose. Il y a encore énormément de besoins d'acculturation de monter en compétence sur tous ces sujets. Je pense que c'est l'un des grands points des années à venir, c'est que c'est pas fini et c'est pas parce qu'on a tous compris pourquoi il faut aller vers ça qu'on sait tous le faire. Donc, c'est peut-être là où il y aura peut-être encore des initiatives associatives, communautaires, importantes. Mais il faut pas avoir peur de ne pas savoir et le faire ensemble et puis d'en discuter. Je suis ravi d'avoir eu cet échange maintenant. J'avais tout à l'heure un appel avec un projet qui se posait plein de questions sur l'utilisation justement de l'open source, des incidences d'un point de vue économique. Il faut en parler. Tout le monde a envie que ça avance et que ça, de partager les connaissances. Donc, faut surtout pas hésiter.
Eh bien, c'est un très bon mot de la fin. Merci d'avoir pris du temps, Benjamin, pour parler des sujets qui sont au quotidien et que tout le monde mériterait de connaître finalement parce que c'est des questions de gouvernance, d'argent public, de ce qu'on veut comme type de société. Donc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. J'espère te recroiser bientôt.
Ça sera de même. Ravi, à très vite.
Et pour les auditeurs et les auditrices, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, à nous laisser un commentaire aussi sur les plateformes de streaming. Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Restez connectés pour les prochains épisodes. Il y a encore des interviews passionnantes dans des domaines tout à fait différents à venir. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.